La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 31e émission de la Semaine de l'Art avec un invité venu d'outre-Atlantique, Patrice Varandel, conservateur en chef de l'art européen du Los Angeles County Museum of Art, le LACMA, avec qui nous parlerons à la fois de l'actualité américaine, de l'actualité de son musée et de l'actualité française, puisque Patrice Varandel est français. Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots votre parcours avant de venir finalement au départ, c'était il y a plusieurs années, vous avez fait toute votre carrière au LACMA. Comment êtes-vous arrivé dans ce musée?
Bon, alors, d'abord, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir de parler un peu de mon travail et de ce que j'ai pu faire aux États-Unis. Alors, je vous corrige immédiatement, j'ai pas fait toute ma carrière au LACMA. J'y suis depuis 21 ans, ce qui est assez longtemps, surtout pour les musées américains, où les gens tendent à bouger beaucoup d'un musée à l'autre. Mais je suis arrivé il y a très longtemps en Amérique, il y a 45 ou 46 ans, j'étais assez jeune, et j'ai fait une carrière qui m'a mené, en fait, de l'université de Yale à Providence, puis à Chicago, puis à Houston, très brièvement, Detroit, pendant 13 ans, et puis maintenant Los Angeles depuis 21 ans. Donc je connais bien les musées américains. Mes collègues me taquinent souvent en me disant que je connais mieux à la fois les musées américains et même l'Amérique profonde que les Américains, que les vrais Américains, parce que je suis aussi américain, donc je peux pas dire les autres, moi aussi. Enfin voilà, donc je suis donc parti de France, non pas sur un coup de tête, mais parce que c'était une période un peu confuse politiquement en France, c'était mai 68, c'était des tas de choses comme ça, et j'avais envie de penser à autre chose. J'étais élève d'André Chastel à l'époque, qui fort aimablement m'a offert la bourse Faucillon, qui à l'époque était peut-être toujours, la seule vraie bourse française en Amérique, qui vous donnait les possibilités d'aller à Yale, un endroit très agréable, de vous familiariser avec l'université américaine et de vous donner des moyens de faire absolument ce que vous vouliez. On pouvait suivre des cours, on pouvait donner des cours, on pouvait voyager, on pouvait rencontrer des gens. Enfin, c'était absolument la liberté totale et très, très agréable. Et moi, j'en ai profité pour faire deux choses. D'une part, pour me familiariser avec le système américain de l'enseignement et de l'enseignement de l'histoire de l'art en particulier, qui était très différent, malgré tout, de l'enseignement pratiqué en France à l'époque. Les choses ont un peu changé. Et aussi pour connaître les musées américains. J'avais déjà été aux États-Unis 2 ans auparavant, où j'avais fait un tour assez important des musées de la côte Est plus Cleveland, mais je ne connaissais pas à l'époque des tas de musées du genre Chicago, enfin bref, tous les musées du centre, du sud et de l'ouest américain, et j'ai profité donc de cette bourse extrêmement généreuse à l'époque pour connaître les musées américains. Les choses ont mené l'une après l'autre, enfin l'une à l'autre, et au lieu de rentrer en France, ce que j'aurais dû faire, et re-rentrer dans la carrière muséale française, que j'avais commencé très modestement comme secrétaire pratiquement au service éducatif du musée du Louvre, etc., j'ai décidé, à la fois on m'a offert un poste aux États-Unis. Alors bien sûr, ça fait rêver aujourd'hui, parce que je connais beaucoup de jeunes historiens d'art européens, français mais aussi italiens, qui en raison des difficultés, spécialement d'ailleurs en Italie, plus qu'en France, où il n'y a pas le même système qu'ici, cherchent des emplois à l'étranger. Les emplois sont extrêmement rares. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où on avait besoin de gens dans les musées. J'étais, il faut l'avouer, je le dis tout à fait honnêtement, j'étais très peu qualifié pour le faire. On m'a fait confiance parce que je connaissais des personnes qui m'ont beaucoup protégé au départ, entre autres Henri Zerner, le grand historien d'art français, qui était à l'époque à l'université de Brown à Providence, qui termine sa carrière cette année, je crois, à Harvard et avec lequel je suis resté, enfin je suis très lié, nous sommes toujours très très amis, et c'est lui qui m'a un petit peu aidé au départ en me disant, tu sais, il y a ce musée à Providence, la ville où j'habite, qui a besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un comme toi, qui s'intéresse un peu à toutes sortes de choses, pas seulement à une petite spécialité d'art ceci ou cela, mais qui doit avoir une vision un peu générale, qui comprenne l'art ancien, le 19e et même à l'époque l'art moderne. Donc je me suis lancé là-dedans, c'était une sorte d'aventure et comme je l'ai dit, la situation était beaucoup plus facile à l'époque et donc un poste m'a mené à l'autre. Après j'étais à Chicago où j'étais bien trop jeune pour d'ailleurs diriger le département des peintures, mais enfin j'y suis resté quand même pas mal d'années. Et puis après, bon, etc., j'ai fait la carrière dont j'ai parlé auparavant. Alors j'avais vraiment une carrière très très américaine et passionnante à tous les points de vue.
Alors j'aurais dû savoir effectivement que vous aviez fait plusieurs musées avant, parce que je vous avais interviewé déjà, l'interview sera mise en... Je mettrai un lien vers l'interview, donc j'ai mal préparé mon émission, je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Parlez-vous nous maintenant du LACMA, le Los Angeles County Museum of Art, qui est l'autre grand musée de Los Angeles.
Oui, alors c'est un musée, moi, qui m'a toujours fasciné. Pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est toujours un musée où je suis allé, enfin, assez tôt, qui ne marchait pas, qui me paraissait bancal, toutes sortes de formes, mais qui me semblait avoir de grandes possibilités. Enfin, c'était une sorte d'intuition. Et j'ai fait beaucoup de demandes pour y arriver. Plusieurs fois, j'ai postulé pour le poste que j'ai maintenant, et je n'ai jamais eu le poste. Bon, c'est sont des choses qui arrivent, on l'a donné à d'autres personnes tout à fait valables, avec lesquelles je suis ami, je suis resté ami, etc., mais je n'ai jamais eu le poste. Sauf qu'un jour, alors que j'étais à Detroit au bout de 13 ans, et j'avais envie de partir, mais enfin bon, j'avais rien sous la main pour le faire, et c'est une petite anecdote, mais enfin, j'espère que vos auditeurs me permettront d'être un peu personnel comme ça. Je louais un appartement à Detroit, et un jour j'ai décidé, bon ben ça y est, maintenant j'y suis depuis 13 ans, je vais passer le reste de ma vie dans cette ville, et je vais acheter une maison. Donc un soir j'ai décidé de dîner avec un ami qui était dans l'immobilier, qui m'a parlé d'une maison. Le lendemain matin, j'ai eu une offre du musée de Los Angeles. Et alors, bon, j'ai pas hésité, j'ai téléphoné à mon copain en lui disant, écoute, désolé, le deal est off, comme on dit, et j'ai fait mes valises pour Los Angeles, même sans... Enfin, j'étais persuadé que je voulais prendre ce travail. Et donc, je suis parti comme ça, donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois maintenant, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, et je suis arrivé dans un musée qui était un peu étonnant, qui ressemblait à rien, du point de vue... de la muséographie, ça ressemblait à la grande salle de chez Sotheby's à Londres, en un jour assez bon d'ailleurs, où il y aurait eu quelques beaux tableaux au mur, mais il n'y avait aucune logique dans la présentation, dans la muséographie, et j'ai dit, bon, il faut s'amuser à refaire complètement.
Qu'est-ce qui vous attirait d'ailleurs au LACMA s'il n'y avait pas de muséographie et que seulement quelques bons tableaux?
C'était
Los Angeles?
Oui, mais d'abord j'aime bien la Californie, j'aimais bien la ville avait une sorte d'énergie qui me plaisait, et puis je me suis dit que c'est quand même, les musées américains sont quand même, les beaux musées américains sont des musées très établis, qui sont là depuis plus de 100 ans, le Met, Boston, même Toledo, même Detroit, enfin, et il y avait une chose qui m'intéressait beaucoup aussi, qui m'amusait à Los Angeles, que je dis, bon, c'est un musée qui est un peu raté, qui a un peu loupé son coup jusqu'à maintenant. Ils s'y sont mal pris, mais ça a très bien commencé. Et ça a commencé de manière qui, moi, me touchait beaucoup, parce que la personne qui a vraiment créé le musée de Los Angeles, c'était William Valentiner, qui avait inventé complètement le musée de Detroit et qui avait fait une chose là qui elle-même était très intéressante, parce que il avait été envoyé par Bode de Berlin, qui voulait peut-être s'en débarrasser, ça je n'en sais rien, mais enfin qu'il avait expédié en Amérique, où il a travaillé au Metropolitan d'abord, puis à Detroit, où il a été invité pour créer, vraiment à partir de rien, le musée. Après avoir fait ça, il est parti lui-même en Californie, où il a créé le Los Angeles County Museum, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi créé le Getty Museum. Très brièvement, J. Paul Getty lui a demandé de faire un plan pour un musée qui n'a pas abouti, parce qu'il est parti ensuite en Caroline quoi, du Nord, à Raleigh, où il est mort d'ailleurs, et où il a aussi travaillé sur ce musée. Mais il avait mis en place, dans tous ces musées, des idées intéressantes, et qui existent toujours aujourd'hui, et qui étaient des idées héritées de la tradition allemande. Et c'était, par exemple, de montrer dans les mêmes salles la sculpture, la peinture, et quelquefois même, enfin, mais assez modérément, des objets d'art. Donc, montrer la culture d'une époque plutôt que ces divisions extrêmement strictes que nous avons en France, le département des peintures, le département des sculptures, etc. Donc, ou bien c'est le même conservateur qui fait tout, ce qui m'arrive en ce moment, parce que, en raison de réduction de personnel, je me retrouve m'occupant de tout, mais aussi ça m'a permis de travailler avec des gens qui étaient dans d'autres domaines que le mien exactement, comme la sculpture, et de coopérer sur d'abord des politiques d'achat, de développement des collections et de présentation des collections. Donc il y avait toute cette idée avec Van Antiner, que je considérais comme une sorte de grand-père ou n'importe quoi, qui m'intéressait beaucoup. Et en plus j'avais des raisons un peu personnelles, parce que j'étais devenu, par un cours de circonstances très curieux, assez amis avec sa fille, qui elle-même avait épousé Harry Bertoia, qui était un sculpteur et qui a fait tous les fauteuils que l'on connaît bien chez Knoll. Donc enfin, il y avait toutes sortes de choses à la fois personnelles et professionnelles qui m'attiraient là, qui ont fait que j'ai abouti dans cette ville.
Donc on va reparler de l'Allemagne longuement après, mais une petite parenthèse sur Detroit. Finalement, vous êtes resté 13 ans à Detroit. Où on est, cette affaire assez terrible du musée de Detroit, est menacée en partie d'une vente de ses plus belles œuvres.
Alors maintenant, je peux le dire officiellement et tout à fait clairement, parce que ça a été annoncé il y a quelques jours, tout va bien. Tout va bien. La collection est complètement sauvée. Il n'est pas question de la vendre, il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Il y a eu vraiment le directeur, qui a d'ailleurs été mon directeur à Los Angeles très brièvement, mais qui est un homme vraiment remarquable, Graham Beal, qui a su très très bien jouer avec les politiques, avec la ville, avec l'État, avec tout le monde, et qui a obtenu non seulement de l'argent, mais qui a obtenu aussi, qui a gagné, si vous voulez, sur le plan juridique et politique, la bataille. Le musée est complètement sauvé, c'est absolument officiel maintenant, c'était dans tous les journaux la semaine dernière.
Eh bien, ça nous avait échappé, en tout cas en France, je pense que vous n'êtes pas forcément au courant. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle.
Dieu merci.
Alors, vous êtes à Paris, parce que vous venez régulièrement à Paris, pour voir, pour essayer d'acheter des tableaux. On parlera de votre politique d'acquisition, que je trouve absolument remarquable tout à l'heure. Et là, vous êtes à Paris Tableau, parce que Paris Tableau bat son plein. À un moment où je vous parle, comment avez-vous trouvé là? Vous faites partie du Vetting Committee d'abord,
voilà.
Qui ne s'appelle pas le Vetting Committee.
Ça s'appelle ici la commission d'admission des œuvres, bon, qui est ce qu'on appelle en anglais le Vetting Committee, qui est une chose très simple, c'est-à-dire que un petit groupe de jurés conservateurs, experts, en fait, etc., plutôt conservateurs, enfin, de gens non dans le métier de marchand d'art, enfin plutôt, assez libre de ce côté-là, on nous demande de voir toutes les œuvres avant l'exposition pour vérifier qu'elles sont bien des peintres auxquels elles sont attribuées, et c'est très agréable à faire, je veux dire, parce que d'abord on se retrouve avec des amis en regardant des œuvres qu'on aime bien, découvrir des œuvres, on en parle extrêmement librement, et on demande aussi, et on laisse des notes écrites aux marchands en disant, écoutez, on veut bien que ceci soit d'un tel, mais pourquoi? Est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que ça a été publié quelque part dans une publication qui nous aurait échappé? Est-ce que l'expert sur ce peintre a vu le tableau, etc.? Et donc c'est plus un dialogue avec des peintres, enfin il y a des choses qui sont évidentes, donc on ne les questionne pas, mais c'est un tableau qui nous semble un peu curieux, sortir de l'ordinaire, sortir de la manière courante, disons, d'un peintre. On pose des questions, et tout ça se passe d'ailleurs extrêmement amicablement, on parle de ça, et on établit, et de temps en temps on a un petit malentendu, et les marchands sont généralement d'accord pour décrocher ce qu'on n'aime vraiment pas. Il y en a très très peu, ça arrive une fois de temps en temps.
Et en revanche, les conservateurs français n'ont pas le droit de faire ça.
Les conservateurs français n'ont pas le droit de le faire, non plus d'ailleurs les conservateurs anglais, ou du moins de la Galerie Nationale de Londres. Les Anglais en général ne le font pas. Par contre, nous avons des conservateurs, enfin pas forcément ici, parce que je le fais aussi dans d'autres foires.
À Maastricht, par exemple.
À Maastricht, et là nous avons des gens des musées hollandais, allemands, qui font ça. Donc c'est une chose française, la France a une relation extrêmement stricte par rapport au marché, et voilà, c'est pour cela.
Donc vous venez à Paris pour Paris Tableau, où il y a beaucoup de choses, vous achetez très régulièrement à Paris. Il y a un marché de l'art, finalement, vous m'avez déjà dit plusieurs fois que le marché de l'art à Paris, en tout cas pour l'art ancien, était finalement plus intéressant qu'à Londres et même qu'à New York. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend assez peu. Donc c'est intéressant, venant d'un conservateur américain, même si vous êtes français, franco-américain, en tout cas un conservateur d'un musée américain, d'un grand musée américain, vous trouvez qu'on achète mieux à Paris qu'ailleurs.
Oui, je trouve que, enfin, vous savez, ça c'est tout à fait typique du marché de l'art qui bouge, enfin, en fonction de l'économie mondiale, en fonction de toutes sortes de facteurs comme ça, je ne les connais pas tous, mais on a assisté quand même, enfin, je peux le dire, il y a une vingtaine, trentaine d'années, pour moi, c'était Londres. C'est-à-dire que tout se passait à Londres, il y avait Colnaghi's, il y avait Agnew's, il y avait Haim, il y avait tous ces grands marchands qui avaient des choses, qui d'ailleurs, beaucoup de choses venaient du continent et de France, enfin, mais enfin, on les retrouvait à Londres, c'était plus facile. Les Américains se sentaient plus à l'aise à Londres, pour des raisons linguistiques, là, souvent. Bon, c'était plus facile pour eux d'aller à Londres. Bref, ça se passait là-bas. Et puis, il y a eu beaucoup de changements. Après, ça a été New York, un petit peu. New York, maintenant, il n'y a presque plus personne qui vend de l'art ancien à New York. C'est même un peu tragique. Enfin, il y a encore quelques marchands, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, c'est pas du tout ce que c'était. Et Londres, je trouve, mort. C'est-à-dire que maintenant, comme vous le savez, Bond Street, qui était vraiment une rue merveilleuse, pleine d'antiquaires, enfin, au sens italien du terme, de marchands de tableaux, et maintenant est une rue pleine de fringues, enfin, de fringues très chic, d'ailleurs. Mais enfin, c'est vraiment ce que c'est devenu. Donc, enfin, pour moi, du moins, ça m'offre très très peu d'intérêt. Alors qu'à Paris, non seulement il y a beaucoup de marchands qui sont venus s'établir à Paris, que ce soit marchands italiens et autres, et il y a aussi encore plein de petits marchands. Et j'en découvre, chaque fois que je viens à Paris, je découvre des gens que je ne connaissais pas ou des galeries dans lesquelles je n'étais pas rentré. Et essentiellement, d'ailleurs, maintenant dans le 19e siècle, mais on trouve beaucoup de choses à Paris. C'est là où on s'amuse, où on trouve des choses, moins chères qu'ailleurs, très souvent, et avec des marchands passionnés, des marchands vraiment qui aiment leur métier, qui aiment trouver et qui aiment partager leurs trouvailles. Donc c'est un plaisir pour moi de venir à Paris.
Donc c'est un bel hommage au marché français.
Ah, oui.
On a trop souvent tendance à se plaindre en disant que le marché français n'existe plus, manifestement.
Non, je trouve qu'il existe ici. Et l'autre marché qui m'attire beaucoup aussi, c'est le marché italien, mais qui est beaucoup plus difficile au point de vue des exportations, etc. La France a quand même une politique assez généreuse, enfin, d'exportation des œuvres d'art. L'Italie, c'est beaucoup plus dur, mais enfin, c'est aussi un pays où on trouve vraiment beaucoup de choses.
Alors, puisqu'on est sur le marché de l'art, sur les acquisitions, parlez-nous un peu de votre politique d'acquisition. Peut-être qu'on a un peu les mêmes goûts, mais tous les tableaux que vous achetez, des fois je me dis, c'est dommage qu'un musée français n'ait pas acheté, mais on ne peut pas tout acheter non plus. Donc, est-ce que vous pouvez parler de quelques acquisitions récentes dont la Tribune de l'Art n'aurait pas encore parlé?
Alors, il faut bien nous laisser quelque chose. La France achète à tel capital que des pays, disons, toujours un peu plus jeunes, doivent aussi faire leur collection, parce que ça fait partie de notre culture de base, disons. Mais, et j'apprécie d'ailleurs toute la générosité de mes collègues français qui m'ont jamais fait d'ennui, d'ailleurs, pour exporter les œuvres que j'ai voulu exporter. Écoutez, oui, enfin, nous achetons un peu dans tous les domaines. Non, essentiellement, d'ailleurs, ce qui est un peu curieux pour mon musée, on associe beaucoup Los Angeles à la modernité, une ville moderne, une ville fondée sur les transports, etc., les communications. En fait, notre collection est essentiellement une collection d'art ancien. Je parle de l'art européen, enfin, de la peinture. On s'attend beaucoup à voir des œuvres impressionnistes chez nous. Nous en avons jusqu'à aujourd'hui très peu. Il y en a quelques-unes, on en parlera peut-être, qui vont venir bientôt. Mais pour l'instant, c'est une petite collection impressionniste. Le 19e, pas tellement en faveur. Mais par contre, l'art baroque, l'art du 17e français, du 18e français, l'art baroque italien et l'art du 18e siècle italien, très très en faveur. Donc j'ai vraiment beaucoup poussé dans ces domaines-là, en achetant des choses quelquefois un peu difficiles pour le public. Et là, je remercie les gens de mon musée à moi qui m'ont permis d'acheter des œuvres auxquelles je croyais beaucoup, mais qui n'étaient pas vraiment évidentes pour le public. Et à mon avis, ça faisait partie justement de cette idée de refaire un musée avec des galeries, avec enfin, de dire une histoire à travers les œuvres, un peu différente peut-être de ce que l'on dit dans notre musée, et qui m'obligeait donc à acheter certaines œuvres. En œuvre récente, j'essaye maintenant un petit peu de de combler des manques. C'est vraiment tout ce que je déteste d'ailleurs faire, parce que lorsque les marchands me disent « qu'est-ce que vous cherchez ?», je leur dis toujours « je cherche ce que je trouve ». Parce que si on a une liste en disant « je veux un Sébastien Bourdon, un Rubens et un Delacroix », ils vous proposeront tout ça, mais ce sont bien sûr les tableaux dont on ne veut pas. Donc il faut vraiment, au contraire, trouver les œuvres d'abord et essayer de les faire rentrer dans ce que l'on fait. Mais cependant, je me suis rendu compte d'absence assez terrible en art flamand chez nous. Je voudrais bien acheter d'autres Rubens que les deux que j'ai, qui sont corrects, l'un plutôt mieux que l'autre d'ailleurs, mais c'est un peu difficile à trouver en ce moment. Donc j'ai acheté récemment un immense Franz Schneiders, donc l'un de ses assistants, si vous voulez, lui-même avec des assistants, etc., mais un très grand peintre de nature morte. On avait une œuvre, un triptyque que j'avais acheté il y a quelques années à Maastricht d'ailleurs, d'un marchand français, un triptyque de Beukhorst, un autre assistant de Rubens, et qui, en fait, ce triptyque avait été fait pour la tombe de Maria Schneiders, qui était donc la sœur du peintre, et qui avait hérité même de son frère. Donc, j'aime bien créer des petits dialogues entre les
uns. Vous l'avez acheté à Maastricht il y a quelques années.
Oui, exactement.
Voilà. Auprès de Gabé Moatti.
Emmanuel Moatti avait ce triptyque ahurissant, et ce qui avait de très amusant aussi, c'est qu'il avait, je crois, acquis par une autre source complète, une aquarelle de Beukhorst, qui était l'une des études pour l'un des panneaux du triptyque, et lequel dessin avait appartenu à Mariette et était dans son montage Mariette. Et c'est le seul dessin Mariette que nous ayons dans notre collection.
Et pour faire ces achats, vous avez un budget alloué ou c'est plutôt grâce à la fondation Amundsen, qui est une fondation qui vous soutient?
Alors,
comment ça se passe?
C'est très simple. Je n'ai aucun budget, je n'ai pas un seul dollar dans un fonds. Je trouve de l'argent un peu à droite et à gauche par des dons, en quémandant, en demandant à des personnes que je connais de m'aider. Mais notre musée a la grande chance d'avoir reçu le soutien depuis très très longtemps, depuis la fondation du musée, qui n'a que 50 ans, d'une fondation qui n'est pas dédiée entièrement à l'achat d'œuvres d'art. C'est une fondation humanitaire, si vous voulez, établie à Los Angeles, qui donne de l'argent aux universités, aux hôpitaux, à toutes sortes de choses comme cela, mais qui a aussi décidé, très tôt, d'adopter le département dont je m'occupe. Et donc, chaque fois que je vois une œuvre importante, je ne vais pas vers eux pour des choses qui ne sont pas d'une grande importance, je leur propose l'acquisition de l'œuvre sur dossier. Et jusqu'à présent, ça fait 20 ans, j'ai eu 100% de succès avec eux, donc ça marche très bien.
Vous avez d'autres donateurs également?
Un petit peu. C'est un peu difficile toujours, ça devient de plus en plus difficile, parce que simplement, par manque d'informations, beaucoup de gens s'imaginent que l'art ancien coûte très cher, alors qu'il coûte bien moins cher que l'art contemporain.
On en discute souvent d'ailleurs, c'est-à-dire que pour un tableau impressionniste, pour le prix d'un tableau impressionniste, parfois vous pouvez acheter 10 ou 15 ou 20 tableaux anciens.
Ah ben, le Getty, mes voisins viennent d'acheter, comme on le sait, un humanet très beau.
60 millions de dollars.
65 millions de dollars, paraît-il. Bon, c'est très bien, moi, ça, c'est une somme qui me fait même pas rêver, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que je sais, c'est qu'avec 65 millions de dollars, on peut faire un beau département de peinture ancienne. Ouais. On peut acheter vraiment toute une galerie, et ça ne sera pas du tout des œuvres mineures. On peut acheter des grands noms de la peinture ancienne pour
on en voit un certain nombre à Paris Tableau.
Et Paris Tableau.
Tableau avec des prix entre 100, 200, 300 000 euros.
Absolument.
Effectivement, pour 65 millions de dollars, ça fait...
Ça fait vraiment rêver. Enfin, là, cette disproportion est un peu... Donc, mais enfin, ça a une certaine incidence sur les dons, parce que les gens me disent, mais vous savez, je ne suis pas très riche, je ne peux pas vous donner d'argent, je n'en ai pas assez. Avec beaucoup... Je leur dis, mais ça dépend, vous savez, je... Voilà. Alors, on leur parle un peu, c'est une question d'éducation du public.
Alors, en revanche, vous avez le droit, on avait abordé déjà de temps en temps le sujet avec vous, vous avez le droit, comme les musées américains, de vendre les œuvres, ce qui vous arrive. La chose que je ne comprends pas, c'est que soit ce sont des œuvres pas importantes qui ne nous rapportent pas beaucoup d'argent, dans ce cas il faut en vendre beaucoup pour acheter une œuvre plus importante. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps la peur de faire une erreur en vendant quelque chose?
Il n'y a pas seulement que la peur, il y a le fait que l'on fait des erreurs. Et ça, il faut bien dire. Alors, il y a plusieurs choses que moi, d'abord, lorsque je suis arrivé en Amérique et qu'on m'a fait comprendre que ça se faisait, j'ai été horrifié parce que je venais d'un. Des musées français, enfin de cette attitude, donc je dis c'est pas possible. Alors j'ai compris très vite qu'il y avait d'autres éléments qui jouaient. D'abord, nous n'avons pas en Amérique les collections de Louis XIV à protéger, ni les acquisitions entre guillemets de Napoléon en Italie ou en Flandre ou n'importe où ailleurs. Donc il n'y a pas de patrimoine culturel à ce niveau-là. La situation fiscale américaine permet des déductions d'impôts assez importants. Donc très souvent, un peu moins maintenant, mais dans le passé même récent et encore maintenant, certaines personnes nous donnent des œuvres pour des raisons fiscales et qui n'ont pas une très grande valeur esthétique, il faut bien l'avouer. Donc on leur dit souvent, nous accepterons ce tableau, mais est-ce que vous êtes d'accord, pas tout de suite, mais dans 300, dans 5 ans, dans 10 ans, pour que peut-être on les change, et généralement les gens sont tout à fait d'accord. Ceci dit, on fait des erreurs, j'en ai fait comme tout le monde. Et il y a des tableaux que je regrette avoir laissé passer. C'était généralement des tableaux qui n'étaient pas en très bon état, ça il faut bien le dire. Ce qui m'a beaucoup gêné une fois, c'est d'avoir vendu un tableau, par exemple, qui était en très très mauvais état, je peux le dire, et je l'avais montré à mon restaurateur. Ça se passait pas à Los Angeles, ça se passait à Detroit. Et il m'a dit, c'est vraiment, je ne peux rien faire, il me dit, il faudrait vraiment repeindre pratiquement le tableau, il n'en reste rien, enfin la matière était complètement usée, c'était sur bois, donc c'était pas jusqu'à la toile, mais enfin jusqu'au panneau. Le tableau a été vendu, a fait un prix très haut, enfin moyen, est réapparu chez un marchand londonien, pomponné, merveilleux. Il est maintenant dans un musée australien, où je l'ai vu. Et je veux dire que ça m'a fait un coup, ça m'a fait une sorte de... Enfin, j'ai été peiné pour tout le monde. Pour moi, en me disant, est-ce que peut-être mon conservateur à l'époque n'était pas à la hauteur? J'étais un peu peiné pour le musée qu'il avait acheté. Je ne pouvais pas leur dire, vous savez, nous ne l'avons vendu parce que c'était vraiment dans un état épouvantable. Alors, bon, ça, ce sont des cas extrêmes. Il y a deux ou trois autres tableaux que je regrette un peu d'avoir laissé passer. Mais j'étais aussi, quelquefois, j'ai dû faire face à des situations critiques. Par exemple, une collection entière de peintures hollandaises nous a été donnée il y a quelques années avec, je ne sais plus combien, une trentaine, entre 30 et 40 tableaux, très importants. Enfin, bon, c'est toute la peinture de paysages, de vues de villes et de nature morte. Pas de peinture de genre du tout dans cette collection qui nous venait. Et l'intention des propriétaires, avant leur mort, était que nous devions avoir toute la collection. Or, les héritiers ont décidé qu'il y avait une petite chose et qu'ils avaient le droit de nous vendre deux tableaux, bien sûr les plus chers. Et donc je me suis trouvé devant cet affreux dilemme en disant, voilà, cette collection est célèbre, elle a été publiée, c'est l'équivalent pour nous de notre Louis XIV. Enfin, c'est notre passé, cette collection dit quelque chose sur la façon dont les gens collectionnaient à Los Angeles dans les années 50 ou 60, enfin, etc., etc. Est-ce que je prends la collection incomplète ou est-ce que je me bats pour avoir les deux tableaux? Je me suis battu pour les deux tableaux, j'ai fait comprendre au conseil d'administration de notre musée qu'il fallait absolument préserver toute la collection et je me suis battu pour obtenir, c'était une somme très importante, je devais trouver près de 10 millions de dollars. Et vraiment, je ne savais pas où commencer. La fameuse fondation dont nous parlions auparavant m'a aidé, mais pas à 100%, j'ai dû trouver beaucoup d'argent et j'ai dû faire une vente de quelques tableaux qui étaient des tableaux des réserves, c'était rien du tout qui était exposé. Mais quand même, il y avait deux ou trois choses là qui m'ont un petit peu coûté, je dois le dire, mais je voulais préserver cette collection.
Alors puisqu'on parlait de l'inaliénabilité, de la différence entre les musées français et américains, quelles sont les autres différences entre les musées français donc, et les musées américains? En dehors de l'histoire, effectivement, parce que les musées français ont souvent une histoire qui remonte au moins à Napoléon.
Fin de la Révolution,
c'est ça. Quelles sont les principales différences pour vous entre un musée français et un musée américain?
Il y a beaucoup de différences. Il y a tellement de différences que ça m'étonne presque toujours qu'on arrive à travailler ensemble. Mais on y arrive. Parce que les systèmes sont très différents. Les structures administratives sont extrêmement différentes. Dans un sens, les conservateurs et directeurs de collections françaises ont peut-être plus de liberté que nous. Ou plus de respect. De la part de leurs élus, de la part de leur ville, etc. Je vois ça, je parle des musées de province essentiellement, mais non pas des grands musées nationaux. Donc c'est un peu plus différent. Nous avons plus de comptes à rendre dans un sens que nos collègues français, mais nous avons aussi des avantages, une certaine liberté de mouvement. C'est difficile à expliquer, mais c'est une chose que l'on sent quand on connaît un peu les deux systèmes. Mais les deux systèmes arrivent à se parler.
Et donc vous travaillez beaucoup avec les musées français ?
On a fait pas mal d'expositions ensemble. C'est au niveau des expositions que nos relations sont les meilleures. Notre musée à Los Angeles fait partie du réseau FRAME. C'est un musée, vos auditeurs, la plupart doivent savoir ce que c'est, mais c'est une association assez libre de 13 musées français et 13 musées américains qui se réunissent une fois par an et qui ont des programmes communs. Nous avons fait ensemble la très belle exposition de Montpellier, Corps et Ombre, qui est venu ensuite en Amérique chez nous sous le titre Bodies and Shadows. Ça marchait parfaitement comme traduction.
Et, sur les Caravagesques.
Voilà, sur les Caravagesques.
Une exposition dont on a parlé sur la tribune.
Je l'imagine. Ça a très très bien marché. La collaboration a été parfaite. Nous travaillons beaucoup comme ça. En ce moment, je rentre à Paris la semaine prochaine. À Paris, je rentre à Los Angeles la semaine prochaine pour inaugurer un échange fait avec la ville de Bordeaux au niveau civique, au niveau des deux villes. Nous sommes sœurs, nous sommes jumelés. Et nous avons envoyé une exposition de photographie américaine à Bordeaux l'été dernier. Et maintenant, nous accueillons en échange leur grand de la Croix. Une grande chose.
Alors, José, parce que vous êtes actif sur le réseau social Facebook et on a l'occasion d'échanger régulièrement. C'est toujours amusant de voir que d'ailleurs les Américains sont beaucoup. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a aussi beaucoup de conservateurs français sur Facebook. En tout cas, beaucoup de conservateurs américains sont sur Facebook, oui. Et échangent grâce à ce média qui permet de se rencontrer, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés facilement. Vous êtes de temps en temps, quand la tribune de l'art publie des articles assez critiques sur la politique culturelle française, politique des musées, vous êtes assez réactif. Qu'est-ce que vous pensez de ces, par exemple, des exportations? On est finalement un des rares pays, il y a le Guggenheim, il y a peut-être l'Ermitage, mais un des rares pays qui commercialise en partie ses collections. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors là, vraiment, je suis vraiment de la vieille école. Là, j'ai pas très très bien compris ce qui se passait ni à Lens, ni à Abu Dhabi, enfin ni nulle part. Bon, surtout à Abu Dhabi, ça me paraît vraiment très très loin. J'y suis jamais allé. Enfin, je suis passé au-dessus, mais je me suis jamais posé, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça me paraît vraiment c'est très compliqué cette situation. Elle a été mal expliquée chez nous, en plus. Je ne veux pas la critiquer en disant c'est ridicule ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune raison de le penser ni de le dire, mais je ne la comprends pas et on n'a jamais eu une explication claire. Qu'est-ce que ça veut dire et que ça rapporte pour la France? Que c'est simplement une manière d'obtenir de l'argent, mais dans ce cas-là, à quel prix? Parce que le prix des œuvres que l'on envoie, c'est un prix énorme à payer aussi. C'est privé quand même beaucoup de personnes d'œuvres pendant assez longtemps. C'est faire prendre de très gros risques dans une région où il fait très chaud, ne serait-ce que ça. Moi, je connais quelque chose sur les pays chauds. J'habite dans un pays chaud. Il y a des nécessités pour conserver des œuvres qui, je suis sûr, sont prises en considération à Abu Dhabi. Mais enfin, tout ça sont des risques à faire prendre à des œuvres. Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est pas moi qu'il faut le demander parce que vous connaissez ma position sur ce sujet.
Je ne sais pas.
Et sur un sujet récent, est-ce que vous avez ce type de problème sur... Alors à Paris, effectivement, il y a une difficulté qui est que nous sommes dans une zone inondable et qu'il est possible, qu'il est paraît-il probable qu'un jour ou l'autre, le cœur de Paris soit inondé, ce qui sera très problématique pour les collections des musées dont une partie est encore conservée en sous-sol. Donc le Louvre, on a discuté longtemps pour savoir où est-ce que ces musées mettraient leurs réserves. Au départ, elle devait être mutualisée, il n'en est plus question maintenant, donc je ne sais pas ce qui se passera pour les autres musées, mais en tout cas pour le Louvre, il a été décidé de faire des réserves à Lens, donc musée de Lens, oui. C'est-à-dire à plus de 200 km du musée, avec quand même du train, plus de la route, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu une décision étrange pour vous? Comment faites-vous, vous, avec vos collections, vos réserves?
Alors, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, les musées grandissent, acquièrent les collections, doivent les gérer d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, enfin, le risque d'inondation à Paris, on sait ce que ça a fait à Dresde, ça a été un désastre. Les gens ont été merveilleux à Dresde et ont sauvé les collections. Mais enfin, c'est quand même un danger énorme. Et il faut agir, c'est certain. Les mettre si loin, c'est pas commode, c'est tout. C'est pas commode du tout, parce que en fait, nous aimons, enfin moi j'aime des réserves un peu vivantes, donc accessibles. J'ai pas grand chose en réserve, mais si quelqu'un vient et me dit tiens il y a tel tableau, c'est facile d'emmener ces gens dans nos réserves qui sont pour l'instant dans notre bâtiment. Nous prévoyons un nouveau bâtiment qui devrait être construit dans une dizaine d'années s'il a lieu, qui lui n'aura pas, ou je ne sais pas, enfin c'est pas encore complètement décidé, mais qui risque d'avoir beaucoup d'œuvres, enfin qui nécessite de mettre des œuvres en réserve ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur. Et nous avons déjà les œuvres comme ça. Et c'est très très compliqué, je vous assure, parce que ça coûte très cher. Je ne sais pas ici, mais enfin, chaque fois que nous allons voir une œuvre ou la montrer à quelqu'un, on doit payer, en fait, pour cela. Et puis, il y a toute une manutention qu'il faut payer.
Payer qui?
Une compagnie qui gère donc ces... parce que bien sûr, nous sommes dans le domaine privé chez nous. Donc, ce n'est pas vraiment le musée qui a des employés là. Ce sont des employés, si vous voulez, comme une maison du type Chenu, enfin voilà, comme ça, qui aurait accès, enfin qui gérerait tout un bâtiment de réserve.
En France, c'est plutôt géré par les musées eux-mêmes.
Par les musées eux-mêmes, ce qui est différent. Mais c'est quand même, c'est très peu pratique. Ça je peux vous l'assurer, parce que les œuvres doivent être mises dans des conditions, enfin, extrêmement sûres. Donc souvent dans des caisses. Enfin, c'est tout un travail.
A priori, l'idée serait plutôt, je crois, de les mettre sur des rails. Vous savez comment les.
Comme dans les. Oui.
Donc, ce sera des réserves. Je pense qu'au point de vue conservation, elles ne seront pas dans les caisses. En revanche, si vous, par exemple, vous venez au Louvre pour voir un tableau et que le tableau a été envoyé dans ses réserves, parce que, eh ben, vous serez obligé d'aller à Lens.
C'est arrivé à un ami ce matin.
C'est-à-dire ?
Qui voulait voir un tableau et qui, effectivement, n'est pas là.
Il n'est pas là. Donc, il est allé le voir. C'est vrai que la situation actuelle, comme le disait...
Il n'a pas pu le voir parce qu'il était entre deux voyages à New York. Bon. Voilà.
C'est toujours un peu agaçant. Sur la politique des musées français, vous avez d'autres choses qui vous intéressent, soit vous contrarient, soit vous étonnent.
Contrarié, étonné, intéressé, je sais pas, oui, tout ça, bien sûr. Non, c'est certain que tous les musées dans le monde entier, les musées français ne sont pas exempts de ça, sont des musées qui changent en ce moment, qui essayent de s'adapter à une société changeante. Moi, je suis assez pour certains changements, pour essayer justement des choses nouvelles. C'est très curieux que, enfin, chez nous, c'est un petit peu. On essaye beaucoup de faire monter nos chiffres de visite, par exemple. Et vraiment, enfin, je dois dire que ça, là, je suis pas populaire parce que j'aime bien les musées tranquilles. Or, je trouve que maintenant le Louvre est trop visité, Versailles est trop visité, et plus on fait de choses pour attirer les gens à Versailles, curieusement, c'est pas Louis XIV qui les attire, c'est maintenant Jeff Koons, mais plus on met de gens dans ces salles de Versailles, enfin, moins on voit les œuvres, moins on peut rêver, moins on peut apprécier les œuvres, je trouve ça vraiment très difficile, et je trouve le Louvre un musée difficile à visiter, même par rapport à d'autres musées très visités, du genre Prado,
National Gallery de Londres,
la Galerie Nationale de Londres, qui est bien moins visitée quand même, mais enfin, bon, qui a quand même
Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde au Louvre et pas à la National Gallery de Londres?
Alors, je ne sais pas. Et pourquoi pas à Berlin, où il y a 5 personnes dans les galeries à Berlin, chaque fois qu'on y va? Non, c'est le mythe de Paris, bon, c'est très bien, c'est la gloire parisienne, et il faut en profiter. Mais comment peut-on contrôler ce genre d'entrée en masse dans les musées, de gens qui vous dérange. Enfin, bien sûr, on ne peut plus aller dans la galerie où la Joconde est présentée. C'est devenu une sorte de cirque, tout le monde le sait. On en rit presque. Enfin, il y a des caricatures qui représentent les gens prenant des selfies devant la Joconde et tout ça. C'est devenu vraiment quelque chose, pour moi, d'insupportable. Mais je ne sais pas. Là, il faut peut-être repenser peut-être les musées d'une certaine manière.
Et bientôt, 7 jours sur 7, parce que vous êtes au courant également de cette affaire qui est assez contestée par vos collègues français, enfin en tout cas officieusement, parce qu'ils ne le diront jamais, puisque c'est une décision politique, d'ouvrir les musées 7 jours sur 7. Or, on est dans un musée qui il y a des endroits où il faut absolument pouvoir intervenir, donc je ne sais pas, est-ce que ça vous évoque quelque chose
ça me paraît impossible d'avoir un musée ouvert 7 jours sur 7, c'est impossible. Il faut au moins un jour fermé, durant lequel, écoutez, c'est une chose de base, on fait littéralement le ménage, on accroche des tableaux, on les décroche, on refait une galerie, on fait des choses comme ça. On peut bien sûr fermer les galeries et faire ce genre de travail, mais souvent ça rentre dans un circuit, c'est pas commode. Et l'espèce de paix, justement, dont nous avons besoin en tant que conservateurs pour considérer nos collections, pour les regarder, pour les juger, pour les changer, demande quand même un peu de temps libre pour nous. S'il faut sans arrêt penser au public qui va être là, c'est très difficile et puis c'est dur à gérer, je trouve.
Alors parlons maintenant des expositions, de vos projets d'exposition. Vous travaillez sur quel sujet
en ce moment? Une petite et une grande exposition, tout de suite. La petite exposition, c'est une chose qui existe un petit peu. Nous avons dans nos collections deux tableaux assez connus de Véronèse, qui ont été prêtés à l'exposition Véronèse de Londres. Et c'est passé une chose assez sympathique. 8 jours avant le vernissage de Londres, on a retrouvé deux tableaux de la même série. La série devait être peut-être de 4 d'ailleurs. Bref, on a retrouvé deux autres tableaux qui font partie de cette série, qui sont dans une villa sur un des lacs italiens. Laquelle villa a été donnée à la région du Piémont. C'est une villa assez récente, enfin de la fin du 19e, du 20e siècle, et qui a été remplie d'œuvres d'art à ce moment-là. Donc ça ne fait pas partie d'une ancienne villa. Mais ces tableaux ont été retrouvés. On savait qu'ils appartenaient à la même série parce qu'il y a une copie très ancienne, une copie sans doute d'atelier de Véronèse, des 4 tableaux ensemble, au musée de Chartres. Et donc, il était impossible de faire voir les deux tableaux, enfin d'intégrer les deux tableaux italiens dans l'exposition de Londres, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils étaient sales, il fallait les nettoyer, etc. Mais on a fait l'exposition des 4 tableaux ensemble, non pas à Vérone, qui a été le deuxième arrêt pour l'exposition véronaise, mais l'exposition spéciale à Vicenza, à l'Institut Palladien, parce que les tableaux ont un peu à voir avec en fait l'architecture, choses comme ça. Donc les 4 tableaux ont été présentés là ensemble, c'était magnifique, juste voir ces 4 tableaux, et nous les faisons venir maintenant aux États-Unis. Donc nos tableaux reviennent chez nous avec leurs cousins italiens, et puis après nous renverrons les cousins italiens chez eux. Ça, c'est le petit projet, mais j'aime bien maintenant justement penser à des projets assez petits, assez centrés comme ça, du genre ce qu'on appelle le dossier. Ce genre de choses-là. Et pour la grande exposition, c'est une exposition que nous faisons avec l'Allemagne pour célébrer le 500e de la Réforme, qui sera en 2017. Une exposition que nous faisons avec Berlin, Dresde et Munich, qui sera, disons, en gros, l'art allemand à l'époque de la Réforme, avec aussi toute une partie historique présentée à partir d'objets, d'armes, de gravures, etc. Et il faut dire, je suis assez intéressé par cette exposition parce que l'art français, l'art italien et l'art espagnol, une dose moindre peut-être, sont les grands favoris en Amérique, et l'art allemand n'est jamais montré. La dernière grande exposition, c'était celle sur Nuremberg, faite en, je crois, 85, si je ne me trompe pas, au Metropolitan, qui était superbe. Et donc, je suis en pourparlers en ce moment avec mes collègues allemands pour leur dire, écoutez, il faut faire de cette exposition une exposition jalon, enfin, pour vraiment dire, on se souviendra de cette exposition comme l'exposition à laquelle les grands musées allemands ont prêté certaines de leurs œuvres les plus importantes. Mais sur les peintres, c'est Dürer, c'est Cranach, c'est Holbein, Holbein, c'est Grunewald, enfin c'est pas mal quand même.
C'est bien, oui. Et c'est dans quel musée allemand elle aura lieu également ?
Elle n'aura pas lieu en Allemagne, elle aura lieu en Amérique seulement.
Alors justement, vous parlez des expositions dossiers, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion encore de vous rendre à ou si vous irez à Rennes pour voir l'exposition sur...
Peut-être dimanche, oui.
Voilà, parce que j'ai vu cette exposition sur laquelle je vais écrire d'ailleurs un article et faire une vidéo. Faite par Guillaume Cazerun et Guillaume Kintz. C'est justement le type d'exposition, je pense, qui va sans doute se développer, parce que c'est vrai qu'on a moins d'argent. Alors peut-être que ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ce que vont devenir les expositions. Il y a encore beaucoup d'expositions, peut-être trop d'expositions. À Paris, vous dites que le marché de l'art à Paris était exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'expositions parisiennes est encore plus important qu'on ne trouve dans aucune ville.
Frénétique.
Ouais, donc, c'est des fois, on se demande si c'est pas un peu trop.
C'est un peu trop, quelquefois on n'a pas le temps. Si on vient en touriste éclairé pour 4 jours, on n'a pas le temps de tout voir souvent. Donc il faut sélectionner un peu ce que l'on veut voir. Mais moi je crois vraiment aussi que les expositions, les grandes expositions, pour toutes sortes de raisons, sont un peu une chose du passé. Enfin, il faut bien dire, c'est triste peut-être de penser dans ces termes.
Il y en a beaucoup encore quand même.
Il y a encore beaucoup. Mais d'abord, il y a des raisons économiques qui font que les valeurs d'assurance sont énormes maintenant. Et les prêts sont très difficiles à obtenir. Beaucoup plus difficiles qu'ils ne l'étaient. Pour tout. Simplement, autrefois, il y avait une sorte d'ardoise que l'on tenait avec les autres musées, sur lesquels on mettait comme ça, virtuellement, disons, les prêts qu'on avait fait à tel ou tel musée, et on s'en souvenait, la prochaine fois qu'on demandait quelque chose à ce musée, ils se souvenaient bien qu'on aurait fait prêter notre Saraceni, donc ils nous prêtaient leur Valentin, ou vice-versa, bref, des choses comme ça. Maintenant, ce sont des négociations beaucoup plus individuelles, sur chaque tableau, il faut se déplacer, il faut demander, c'est beaucoup plus difficile. Donc moi, je crois énormément à ces expositions petite ou moyenne, enfin de taille moyenne, j'entends, celle de Rennes, elle n'est pas une petite exposition.
Mais il y a deux salles, il y a une quinzaine de tableaux, mais avec beaucoup de nouveautés.
Bien sûr.
Avec des choses, moi je l'ai vu, vraiment très très intéressantes,
sûr,
très importantes.
Sûr.
Plusieurs tableaux qui sont exposés pour la première fois dans un contexte Ribera.
Oui, oui.
Des découvertes, vous verrez si vous y allez, un tableau qui est dans les réserves de Montauban. Et qui est un tableau qui est une découverte de Michel Laclotte, confirmée par Jenny Papi. C'est un superbe Ribera, c'est un saint qui n'est pas vraiment identifié. C'est certainement un des tableaux les plus forts de l'exposition, même si on réunit quand même les 5 ou 6 apôtres retrouvés de l'apostolat d'eau, dont un a été acheté par Rennes, c'est l'occasion de l'exposition, et un autre récemment par Le Louvre. C'est vraiment le type d'exposition qu'on a plaisir à voir, pas trop petite, mais pas non plus...
Énorme.
Parce que des fois, on serait épuisé de certaines expositions, et on se demande surtout pourquoi tant d'œuvres. Alors, je ne vous demanderai pas d'en parler, je ne sais pas si vous l'avez vu, peu importe, mais pour moi, l'exposition qu'il ne faut pas faire, c'est l'exposition Sade, j'en ai déjà parlé 15 fois.
Je l'ai vu.
Bon, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas.
Pas tellement.
Bon, voilà, donc ça du tout.
mais par contre, ce qui est bien aussi dans cette exposition de Rennes, que je vous vois feuilleter le...
Qui vient d'arriver, le catalogue, qui est un tout petit peu en retard.
Non, mais ce qui est bien en plus, c'est un catalogue qui est de bonne taille, qui est maniable, qui ne fait pas 15 kilos, qui ne prend pas la moitié d'une bibliothèque.
Voilà.
Donc c'est déjà formidable et qui, je suis sûr, le texte sera fourni et donnera à penser.
Oui.
Et donc c'est vraiment tout ce qu'on aime. Ça.
C'est des jeunes chercheurs, Guillaume Kintz et Guillaume Cazerouni.
Bien sûr,
vraiment...
non, c'est le genre d'exposition absolument à faire. Et là, je crois, parce que c'est une exposition très certainement pour les professionnels, les techniciens, les gens qui connaissent un petit peu déjà qui est Ribera, mais je crois qu'elle peut aussi attirer des gens qui ne connaissent pas du tout. D'abord, le peintre est merveilleux, le peintre est quand même très attirant, presque autant que Caravage, je dirais. Enfin, c'est quelqu'un qui est tellement direct, tellement merveilleux, qui vous prend. Enfin, c'est un artiste merveilleux. Donc, c'est un très très bon choix pour ça. Mais c'est pour moi l'expo parfaite.
Ce qui est intéressant, c'est que le jeune Ribera a été exposé à Madrid il y a 3
bien
ans.
Sûr, oui.
Et que la plupart de ses tableaux n'y étaient pas.
Donc,
c'est vraiment un complément.
Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu que l'exposition se faisait, je me suis dit, mais comment ont-ils pu refaire l'exposition du jeune Ribera, qui puisait un peu à droite et à gauche. On sait comment c'est difficile d'emprunter de nouveau des tableaux qui ont été prêtés il y a peu de temps, mais je me suis bien rendu compte que le titre mène un peu à confusion en disant, tiens, c'est la même exposition, mais ce n'est pas la même
du tout.
Et le propos est très différent de l'exposition, ce n'est pas du tout le propos de Papy.
Alors, quittons un peu le monde des musées, puisque vous êtes également sensible, et je sens aux discussions que nous avons de temps en temps, au patrimoine, et vous m'expliquiez tout à l'heure que vous êtes battu, même aux États-Unis, contre la destruction des Halles.
Ah oui, la destruction des Halles, c'était le premier scandale, d'ailleurs, aux États-Unis, enfin, parce que les États-Unis, quand même, ont toujours une grande admiration pour la France, pour son passé historique, pour son passé architectural, enfin, c'est vraiment... peut-être dans un sens plus que l'Italie encore. C'est un pays mythique pour beaucoup d'Américains. Et lorsque les Halles ont été détruites, ça remonte à quoi, 71 je crois, ça avait été mais vraiment un tollé aux États-Unis. Et j'étais à l'époque, et je suis resté jusqu'à sa mort, très ami avec Louise Bourgeois, qui est devenue une célébrité. À l'époque, elle n'était pas du tout connue, mais enfin elle est devenue très célèbre depuis. Et elle et moi et des amis avions décidé de faire une manifestation devant les services culturels de la France, sur la 5e avenue, que nous avons faite d'ailleurs, en protestant très fortement la destruction. Les Allemands, ça n'a mené à rien, bien sûr, on savait bien, mais enfin, il fallait quand même le dire. Et les gens sont très choqués en Amérique lorsqu'ils apprennent, et malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, ils ne savent pas toujours ce qui se trame en France et, du point de vue de la conservation du patrimoine artistique, enfin culturel, architectural, etc. Mais vraiment, c'est là où il faut faire des efforts. À mon avis, je suis un grand flâneur parisien dans la tradition, disons-le, soit disons de Baudelaire, peut-être de Walter Benjamin, enfin je ne sais pas, enfin j'adore me promener dans Paris depuis que je suis enfant. J'aime son architecture, j'aime tout, j'aime le Paris de Haussmann, j'aime le Paris du Marais, j'aime des sortes de choses, et de voir quelquefois des bâtiments que j'ai connus qui sont mal entretenus, qui sont détruits souvent, rentrer dans les églises parisiennes qui sont d'une tristesse incroyable, où il n'y a même pas des lumières sur les tableaux, enfin un petit spot, ça coûte pas très cher, enfin je ne sais pas, même si on met 100 sous pour l'allumer pendant 10 minutes, enfin peu importe, mais n'importe quoi, pour commencer à regarder ce que nous avons chez nous. Enfin, écoutez, les Français, comme tout le monde, vont en Italie l'été, se promènent dans des églises qui sont quelquefois moins intéressantes que celles que nous avons à Paris, mais ils ne connaissent pas celles de Paris, c'est un peu ridicule. Il faut commencer ici, c'est plein de tableaux italiens d'ailleurs, et autres. Mais et puis enfin, c'est surtout l'entretien des bâtiments qui est crucial à mon avis. Je ne sais pas tout, j'en apprends un peu par votre chronique, disons, donc je sais un peu ce qui se passe ici ou là. Moi je suis né dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, donc Notre-Dame-de-Lorette est une église que je connais bien, que j'ai toujours adorée. Sans, je ne savais même pas ce que c'était lorsque j'allais la regarder enfant, mais après j'ai découvert que c'était un manifeste d'une certaine peinture au 19e siècle, et pour cela c'est une église qu'il faut absolument sauver. Elle est à peine sauvable maintenant. Il y a quelques chapelles et autres, et des choses qui sont tellement abîmées par l'eau, par je ne sais quoi, qu'on peut à peine les sauver, mais il faut encore le faire. Et je me demande comment pourrait-on faire pour allier même une sorte d'opinion mondiale, de campagne mondiale, trouver de l'argent ailleurs, des fondations. Je ne sais pas, moi je suis prêt à me décarcasser pour trouver quelque chose.
Est-ce toi-même, le vrai problème en fait, c'est que demander de l'argent alors que la ville de Paris ne met pas le minimum qu'il faudrait y mettre? Parce que, on sait bien, enfin, nous sommes à Paris, je pouvais assurer que l'argent existe et que l'argent est dépensé ailleurs pour des projets insensés qui abîment la ville plutôt que de les
bien
mettre
sûr.
Dans...
Mais c'est
dans...
évident.
Donc, et par exemple, les serres d'Auteuil, est-ce que vous avez suivi un peu ça? Vous parliez des Halles, mais là, on est aussi dans un scandale qui s'approche.
Oui, c'est un peu du même chose, du même genre, parce que bien sûr, on pense d'abord, bien sûr, disons, les églises décorées, l'art, la peinture, mais enfin, l'architecture est une chose très importante, et l'architecture moderne, enfin, ou qui mène justement à la modernité, Dieu sait si on devrait s'y intéresser, parce que, enfin, dès qu'on ouvre un journal, c'est pour entendre parler de Zaha Hadid, de Frank Gehry, de Renzo Piano, et de tous ces gens-là. Je n'ai aucune opinion sur leur travail. Certains sont sans doute tout à fait compétents. Mais enfin, quand même, enfin, il y a une tradition de l'architecture qui passe par l'architecture moderne, l'architecture justement faite de fond, d'acier, enfin, je ne sais pas, etc. Toutes ces choses-là qu'il faut préserver. Ça a été préservé à New York, curieusement. Tout le quartier de Soho est vraiment préservé. On ne peut plus détruire ces maisons. On peut construire des horreurs à côté, mais au moins, celles-là sont préservées.
Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter que vous aimeriez dire à des auditeurs français de la part d'un conservateur américain?
Non, si, je peux dire beaucoup de choses. Je dis d'abord, visitez vos musées discrètement, poliment, sans faire de bruit, aimez-les, parce qu'il y a vraiment tellement de choses sublimes ici en France, et des villes extraordinaires. Tout change, et nous ne sommes pas du tout contre le progrès, mais intégrons cet aspect de nos vies, l'histoire, la beauté, toutes ces choses-là, dans ce mouvement justement du progrès.
Merci beaucoup pour être venu ici et pour votre regard sur les musées, non seulement américains, mais les musées français, le patrimoine français. Et donc, je dis rendez-vous la semaine prochaine.
Merci, Mignon.